Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Romain.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui du coup pour parler d'Orga Produits au sein d'Open Classroom. Donc vous êtes quand même assez connu dans l'écosystème francophone et au-delà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter puis de présenter aussi Open Classroom pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Ouais, bien sûr. Donc bonjour, moi je suis Romain Kuzniak. Je suis CTO et Head of Product Management chez Open Classrooms. Open Classroom, c'est une école en ligne qui dispense des formations à tout type de personnes, quels que soient leurs prérequis, plutôt autour des métiers du digital, mais pas que. Donc, c'est des formations reconnues par l'État dans tous les pays, avec des accréditations principalement en France, en Angleterre, enfin, au UK et aux États-Unis. Et on a une particularité aussi de faire beaucoup d'alternance. Voilà, c'était précédemment le site d'Izero que certains ont pu connaître, mais ça fait déjà presque 10 ans que ça ne l'est plus. Donc voilà, on accompagne beaucoup de gens dans leurs connaissances, dans leurs compétences, quel que soit leur niveau.
Très, très clair. Et du coup, toi, autour de ton parcours, je sais que ça fait un moment que t'es chez Open Classroom aussi. Donc si tu devais un peu faire une rétro sur ton parcours, d'où tu viens, comment t'es rentré dans la tech
Ouais, alors moi je viens pas du tout de la tech à la base, je viens de la musique, donc j'étais ingénieur du son, musicien, puis j'ai fait des petits jobs. J'ai fait une reconversion quand j'avais 28 ans, parce que le métier de l'industrie musicale est assez compliqué, c'est difficile d'en vivre. Et donc j'ai fait une reconversion dans l'informatique, je suis passé un peu par les ESN et assez vite j'ai rejoint, à l'époque c'était le site d'Izero, et j'ai suivi l'évolution de l'entreprise. Quand je suis arrivé, on devait être une petite quinzaine, le monde de l'éducation ça n'avait rien à voir, on vendait des livres et de la publicité, mais l'évolution de l'éducation notamment en ligne fait que petit à petit on a eu d'autres opportunités, on a fait beaucoup de pivots, l'entreprise a grandi, a eu des hauts, des bas. Et donc finalement, même si ça fait longtemps que je suis chez Open Classroom, j'ai l'impression d'avoir eu plein de métiers différents, d'avoir eu des produits différents, des métiers, enfin un domaine différent. Tu vois, on parlait de livres, c'est vraiment... on était maison d'édition à l'époque. Ouais. On faisait du papier, un livre papier. Yes. Après, on a passé par de l'abonnement. De l'abonnement de d'e-pub à l'époque, tu vois, d'e-books, puis de cours, puis des formations, puis l'alternance. Donc, c'est pas les mêmes boîtes. Hein.
Et du coup, aujourd'hui, pour poser un peu le décor, le nombre de collaborateurs que vous êtes et puis à peu près la répartition entre tech, partie plus du éducation.
Alors, on est à peu près 320, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le dernier chiffre en tête. La particularité d'Open Classroom, on a quand même quelques grands domaines, donc la partie produit plateforme, on va dire. On en discutait avant l'émission parce qu'on est dans les studios. Il y a une grande partie aussi sur la pédagogie et ce qu'on appelle le learning. Donc là, c'est, je ne peux pas te dire le chiffre exact, 50-70 personnes. On a aussi une grande partie d'accompagnement de nos étudiants. Alors, soit en amont, au niveau des admissions et des financements, et là, c'est quand même... un gros bout, mais aussi pendant leur formation. Donc, c'est les grandes lignes un petit peu de comment est organisée l'entreprise. Et sur la partie produits, tech, data, on est à peu près 80 personnes.
Ok. Et sur les 80, tu as une répartition au niveau de partie purement dev, plus PM, product designer
Finalement, c'est quelque chose qui a pas mal évolué au cours du temps. Et finalement... On a quand même de l'ingénierie, mais ce n'est pas forcément la plus grosse équipe. Finalement, au fur et à mesure où tu arrives à optimiser ton flux de production, quelque chose qui est beaucoup moins automatisable ou optimisable, c'est toute la partie un peu plus de réflexion autour du produit, du design. Donc, on a quasiment une répartition. On a beaucoup de PM, on a aussi un rôle un peu de PO, de designer, de content design, de user research. Donc en fait, finalement, le ratio est assez équilibré entre les deux.
Ok. Très, très clair. Et du coup, sur ce rôle CTO, CTPO, ouais. Aujourd'hui, donc, toi, tu es flagué CTO.
En fait, le produit Open Classroom, c'est assez intéressant parce que par rapport, on n'est pas que digital, ce que les gens viennent chercher, c'est une formation. Donc, finalement, le produit en termes de qu'est-ce que tu viens acheter, c'est une formation. C'est pour ça qu'on n'a pas mis un terme CTPO derrière ce que je faisais parce que ce qu'on vend, c'est de la formation. Donc, il y a aussi l'équipe Learning, il y a aussi des Learning Product Manager dans l'équipe Learning. Mais mon rôle, si tu avais pris une boîte standard SaaS, c'est CTPO. Donc, c'est le produit, le design, la tech, la data aussi.
Et donc, sur cette particularité que vous avez, effectivement, avoir le digital et aussi le physique, et enfin, vraiment la plateforme qui sert de support pour délivrer le produit final qui reste de la formation, c'est quoi, si tu devais, là, le plus gros enjeu que vous avez, par exemple, devant vous sur réussir à utiliser la tech pour justement servir
En fait, pendant longtemps, on a beaucoup travaillé sur la partie vraiment formation.
Ouais. Donc contenu, quand tu dis formation
Dans le cycle de vie de l'utilisateur, c'est-à-dire je rentre en formation et puis j'acquiers des compétences.
Yes.
Donc ça peut être le contenu, ça c'est une chose, mais après tu as aussi tout ce qui est l'évaluation, donc les quiz ou le mentorat ou les autres évaluations. Et en fait, on se rend compte que c'est qu'une partie du cycle de vie de l'utilisateur dans ses compétences. Il y avait une partie après qu'on connaissait déjà qui est comment on l'accompagne à trouver un emploi, à évoluer dans sa carrière. Et une grande partie en amont sur laquelle on se concentre un peu plus depuis plusieurs années désormais qui est comment je t'accompagne à trouver la bonne formation. C'est un premier point. Parce que quelqu'un qui est en reconversion, on lui dit tu veux faire par exemple du développement, mais c'est que je fais du mobile, je fais du PHP, du Java, du Python. C'est quoi la différence entre data engineer, data analyst? Donc, comment on l'accompagne à trouver sa formation? Et aussi, comment on l'accompagne à trouver son financement? Et ça, c'est un des trucs sur lesquels on a pas mal bossé parce qu'en France, il y a une variété de financements disponibles. Quand je dis variété, je pense qu'on a... Nous, on en couvre presque 50 ou 70, quelque chose comme ça. Et les gens n'ont pas connaissance de tout ça. Donc, c'est comment on arrive à t'aider à trouver le financement pour ta formation. Donc, finalement, tu vois, le challenge, pendant longtemps, on a beaucoup été concentré sur la formation. On l'est toujours. Mais finalement, le périmètre produit s'est vachement élargi. Et donc là, notre challenge, il est en ce moment plutôt en amont, y compris dans l'alternance. Et là, si tu veux savoir un peu sur quoi on bosse pas mal, c'est comment on accompagne les candidats à trouver leur alternance. Et donc, tu vois, on parlait de toutes les variations du produit et des métiers. Donc là, nous, on travaille vraiment à trouver les job postings, enfin les offres d'emploi, aider à créer un CV, à passer des interviews, les aider à candidater. Ça, c'est un sujet sur lequel on est pas mal concentré en ce moment. Ouais.
Et donc, hyper, hyper intéressant donc, d'un point de vue orga-produit, parce que du coup, c'est quand même ultra spécifique sur le fait qu'on ne peut pas calquer un modèle pur d'une orga SaaS B2B. Mais du coup, je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous avez pris, par exemple, sur des exemples de boîtes très, très product-driven, très outcome-based en termes de bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous avez adapté, un peu comment vous fonctionnez sur ces 80 personnes produits et tech
Je pense que le premier truc déjà, c'est de se dire comment tu crées des équipes qui sont en autonomie de compétences déjà. C'est-à-dire cross-functional team, mais bon, on peut appeler ça une squad, c'est le terme qui est généralement utilisé. Yes. Donc ça, c'est une pratique qu'on a depuis longtemps, on n'est pas les seuls, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire, tu veux que ton équipe est sur son domaine, et ça, on pourra revenir juste après.
Soit assez autonome sur sa...
Tu limites les dépendances vis-à-vis des autres équipes ou sur leur prise de décision. Donc ça, c'est une pratique déjà. Après, c'est comment tu alignes aussi toutes les personnes au sein des équipes sur les mêmes objectifs. Différents métiers, mais comment tu arrives à les aligner sur les objectifs. Et ça, si on en revient quelques années avant, c'est Spotify qui avait le premier, on peut dire que c'est une influence, mais bon, maintenant, les squads, il n'y a pas que Spotify, tout le monde en fait, tout le monde a évolué là-dedans. Après, le point sur lequel on a évolué au cours du temps, c'est comment tu organises ces squads. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle gère, comment une équipe, quel domaine elle couvre. Parce que tu peux te dire, je peux travailler par device, je peux travailler par couche technique. Et là, on a eu un parti pris il y a 2 ans, enfin, c'était plus ou moins ça, mais on l'a vraiment explicité, de se dire, on va vraiment expliciter un peu ce cycle de vie utilisateur. On va clairement le définir dans l'entreprise. Et donc là, on pourra en revenir dessus, c'était assez intéressant, c'est comment l'équipe Experience Design, donc UX, travaille à formaliser ça. Très clairement, mais au niveau stratégie de l'entreprise aussi, c'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, ça c'est notre cycle de vie, voilà le nom qu'on donne à chaque étape, voilà le nom qu'on donne à chaque output ou outcome, et puis après on a aligné la data là-dessus aussi, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une sorte de cohérence entre la mission de l'entreprise ou la stratégie de l'entreprise jusqu'au niveau le plus bas organisationnel. Et y compris dans les autres équipes. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, on est vraiment sur des équipes qui sont orientées sur le cycle de vie de l'utilisateur. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce travail-là, après, il a influencé dans les autres équipes. Ce qui fait que d'autres équipes, par exemple, support, ou ainsi de suite, bah, petit à petit, sont alignées aussi avec, tu vois, l'organisation de...
En dehors de l'équipe produit.
Exactement, ouais. Ce qui facilite aussi les interactions, la compréhension, et ainsi de suite.
Et du coup, sur ce travail vraiment de remise à plat des process, de compréhension du cycle de vie utilisateur, qu'est-ce qui a été les plus gros challenges, les choses que vous avez appris, tu vois, si vous deviez le refaire peut-être différemment, ou en tout cas, ou des choses qui se sont très bien passées aussi, pour donner des conseils sur des personnes, tu vois, des boîtes qui seraient peut-être à cette étape en train d'essayer de faire ça.
Et alors là, la partie experience design, enfin UX, nous, l'équipe s'appelle experience design. En fait, c'est... J'ai appris quelque chose qui était assez intéressant, c'est que juste sur l'expérience design, souvent, tu sais, tu as le truc, on veut avoir un siège à la table. Souvent, on se dit, les designers, et souvent, on l'imaginait à travers la voix de l'utilisateur, mais c'est difficile de mettre la voix de l'utilisateur avec le bookie, enfin, le ROI derrière. Le lien, il existe, hein, clairement. Mais tu sais, il n'est pas direct.
Il y a juste pour aussi que les personnes comprennent, parce que vous, l'enjeu derrière aussi côté business, c'est sur le fait d'avoir du coup des réservations sur les formations, quand tu parles du booking là. Juste pour contextualiser
Nous, les éléments clés dans notre business, bah, en fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que, alors, booking, je vais rappeler ce que c'est le bon de commande, c'est-à-dire la personne, elle a décidé d'acheter, mais elle n'a pas encore payé, c'est différent du revenu du chiffre d'affaires. Parce que nous, on est sur un cycle qui est super long, c'est-à-dire, tu rentres en formation chez Open Classrooms en alternance, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Donc, tu fais peut-être, on va dire, 100 de bookings, mais tu n'as rien encaissé encore, parce que tu n'as pas délivré le service. Mais le service, tu vas le délivrer pendant 2 ans. Donc, en fait, nous, on est obligé de séparer un peu le booking du revenu parce que tu vas récupérer le revenu qu'au bout de 2 ans. Donc, on a cette partie-là, booking, qui est liée, en fait, au nombre de personnes qui rentrent en formation. Le revenu, il est lié à la complétion des formations parce que si quelqu'un arrête sa formation au bout de 2 mois ou il échoue, tu ne fais pas de revenu. Et puis, en fait, on a quand même un troisième point qui est important, c'est mettre les gens dans l'emploi. Parce que nous, on délivre des formations reconnues par l'État. Et il y a quelque chose qui est par l'État. Et il y a quelque chose qui est indispensable, c'est le taux de placement de l'emploi, qui est de 70%. Et donc, nous, on doit justifier auprès de l'État que 70% de nos diplômés ont trouvé un métier dans leur formation. Donc, tu vois, nous, en termes de business, on a quand même 3 grandes étapes. L'admission et trouver la bonne formation et le bon financement. La formation avec, faut que tu ailles au bout et ça nous génère du chiffre d'affaires et puis il faut que tu trouves un job.
Yes, très, très clair. Du coup, je t'ai coupé quand tu expliquais du coup la complexité d'un point de vue UX, d'être purement centré sur l'utilisateur versus...
En fait, ce qui a été assez intéressant dans la démarche qu'on a eue, c'est que l'UX et l'expérience design a eu un impact stratégique sur l'entreprise, mais pas par l'angle qu'on pensait avoir. Initialement, tu te dis, bon, on va montrer en avant la voix de l'utilisateur, on va tirer le lien entre la voix de l'utilisateur et le ROI. Alors, il y en a qui ont fait ça. Hein. Tu sais, je ne sais pas si tu avais vu, les boîtes qui ont le plus de chiffre d'affaires sont celles qui sont plus centrées utilisateurs, mais au quotidien, pour les gens ou pour les décideurs, ça ne parle pas en fait. Le lien n'est quand même pas évident. Et finalement, quand on a voulu modéliser un petit peu toute cette... complexité de cycle de vie utilisateur, bénéfices utilisateurs, avec les bénéfices pour l'entreprise. Les meilleures personnes pour le faire, bah, finalement, c'était les designers, parce qu'ils ont les compétences de facilitation, toute la user research, mais aussi d'aller dans les autres équipes. Ils ont vraiment été clés dans la définition, finalement, de comment on voulait structurer bah, aussi bien le cycle de vie de l'utilisateur, la stratégie, ce qu'on voulait mesurer. Et en fait, le siège à la table, ils l'ont eu à travers ça et pas à travers le truc voix d'utilisateur. C'est un truc qui est assez étonnant. Ce qui fait que, tu vois, en CTeam ou au board, ça permet aussi de vachement d'évangéliser. Alors, ils avaient quand même une oreille attentive de base, mais de l'importance de ça, de ce travail-là. Et des fois, tu as le réflexe de dire « Ah, il faut faire peut-être plus de user research là-dessus, il faut aller chercher peut-être plus d'outcomes là-dessus, ou quand tu ouvres un peu un nouveau pan du business, de dire « Ah bah tiens, il faudrait que l'équipe passe pour clairement définir c'est quoi les user outcomes, les product outcomes, les business outcomes. » Et le fait que c'est devenu un peu réflexe en CTeam, au board, bon, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Et donc ça, c'est sur la partie, ouais, comme tu disais, inattendue de ouais. Comment ça s'est passé ouais. Lorsque ça a été mis en place. Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient un peu plus complexes, que vous avez fini par craquer, mais ou globalement, bah, ça s'est plutôt bien déroulé
Après, comme, ouais, je pense que les problèmes qu'on a eu ou les challenges qu'on a eu, c'est les challenges standards. C'est-à-dire qu'à un moment, dès que tu formalises un peu plus ta stratégie, ouais. Bah, tu peux avoir des désalignements, tu peux avoir de la compréhension, tu peux avoir... voilà, parfois du manque de commitment, choses comme ça. Donc je pense que c'est plus ces sujets-là, en termes de pratique ou technique, je pense que tu t'es assez équipé désormais dans comment tu peux mener des ateliers. Enfin, tu sais, il faut revenir aux bases, c'est-à-dire engage les gens de toutes les équipes, la collaboration, comment tu leur donnes une voix aussi, et tu fais pas ça dans ton coin en arrivant, voilà. Après, c'est le truc un peu derrière, c'est que parfois les gens sont peut-être engagés, collaborés, mais si tu fais des changements un peu stratégiques, c'est comment tu arrives à accompagner ça aussi.
Yes. Et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les OKR ou est-ce que vous avez ouais. une notion de North Star métrique
ouais,
comment,
bien sûr.
Comment est-ce que vous alignez ce que je trouve hyper intéressant avec Open Classroom, mais aussi après, question un peu qui sort, mais qui m'intéresse de savoir, c'est quand vous êtes passé de le site du zéro avec le petit âne à vraiment le changement complètement de branding sur ouais. Open Classroom, qui je pense était aussi, moi, tel que je l'avais compris à l'époque, c'était bah, évidemment pour aussi aller à l'international parce que c'était un nom qui résonnait plus. Mais je suis curieux de savoir, vu que tu étais là ouais. quand vous avez fait ce changement aussi, comment ça s'est un petit peu passé en interne tout ce travail-là. Parce que c'était pas rien, même ouais. d'un point de vue identité. Le site avait complètement changé, en fait.
Ouais.
Mais avant d'aller sur cet angle, oui, ma question plus sur les rituels produits classiques que vous pouvez avoir, et puis les OKR, North Star Metric, un peu comment vous utilisez tout ça pour aligner tout le monde aujourd'hui.
Bah en fait, justement, le travail de pouvoir se dire, tiens, comment on représente le business, mais le produit, mais aussi toutes les équipes. Ce travail-là, il a été super important et on l'a pris par le cycle de vie utilisateur. Et donc derrière, à chaque fois, on a mis des termes et puis les volumes associés. C'est devenu en fait nos métriques. Et c'est devenu nos métriques pour toute l'entreprise. Le nombre de candidats admis, c'est une métrique clé qui est partagée. Déjà, la définition est commune dans toute l'entreprise. La data et comment c'est calculé, parce que c'est un sujet aussi. Hein. Tu sais, des fois, tu as une définition, mais chaque équipe fait son calcul différent. Il a été, ça a été écrit. Et puis, tu vois, ce que j'ai évoqué un petit peu à un moment, le lien entre product outcome et business outcomes, il est clé là-dedans. Et c'est là-dessus qu'on s'est aussi concentré, c'est-à-dire comment tu dis quelle est la valeur que tu veux apporter, quels sont les grands éléments, quelle traction métrique, donc tu vois par exemple les admis en formation, c'est vraiment une traction métrique, tu vois un peu matérialisé produit, qui en fait plus tu as d'admis, plus tu génères de bookings. Donc déjà le fait de réussir à créer ce lien-là entre des trucs très business, bookings, attraction metric, on les appelle unruly, mais des admis. Et puis, quelle valeur on apporte pour pouvoir avoir plus d'admis. Le fait de l'avoir vraiment formalisé, d'avoir mis les métriques, de dire ça, c'est important, et voilà les volumes qu'on a, et voilà les volumes qu'on veut avoir, et ainsi de suite, bah, c'est les métriques de l'entreprise. C'est les métriques que toutes les équipes ont. Et ça permet aussi un bon alignement parce que le produit a une certaine transversalité hein, par rapport à ça. Mais mes squads ont voilà, la même métrique que des équipes sales ou que des équipes. Donc ça a été vraiment ce travail-là. Et puis finalement, on choisit lesquelles, on met des volumes. Et puis après, c'est les mêmes pour toute l'entreprise. On définit quels sont nos objectifs. Donc ça crée vraiment un alignement. Et puis après, tu peux les cascader.
Yes.
Mais forcément, on oblige les gens à toujours revenir sur est-ce que ça a un impact sur la métrique supérieure. Voilà.
Et du coup, sur vos logiques de priorisation aussi, comment ça se passe en termes de... Bah, là, par exemple, tu as deux squads qui vont se dire bah, « Moi, je peux impacter cette métrique de booking. » L'autre squad qui dit « Squad A, squad B. » Toutes les deux peuvent impacter la métrique de booking. Mais par exemple, il y a une ressource pour le coup qui... et transverse qui a besoin d'être utilisé pour pouvoir impacter cette métrique là et donc les deux sont un peu en compétition, tu vois, sur la même ressource ou capacité interne pour faire une évolution produit en termes d'arbitrage derrière de bah, est-ce qu'on va plus vers la squad A ou vers la squad B, comment ça se passe en fait les logiques derrière de priorisation.
Bon, déjà tu vois, les trois grandes étapes du cycle de vie, on les a regroupées en tribe.
Yes.
Avec aussi une gouvernance de tribe, ainsi de suite. Le petit changement qu'on a apporté, c'est que, tu vois, avant, on avait des traction metrics qui étaient assez séquentielles. Pour arriver, par exemple, je vais te prendre le cas de l'admission, il est assez intéressant. C'est au début, tu as des membres, puis candidates, puis ils sont admis ou pas. Et donc, tu vois, tu peux un peu faire ton funnel comme ça. Mais en fait, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que parfois, tu dis, ah bah tiens, pour améliorer une métrique en bas, faut peut-être que je détériore une métrique en amont, mais ça va augmenter ma conversion et tout. Et donc là, ça pouvait créer du conflit. C'est-à-dire, bah tiens, moi, ma squad, elle est sur, je sais pas, le nombre de personnes qui commencent l'acte de candidature à la formation. Donc j'en mets plein, mais ils sont de mauvaise qualité. Donc en fait, ça baisse mes admissions. Donc en fait, là-dessus, on a dit, bon, bah ça, c'est notre action métrique et on les connaît. Mais bon, on va regrouper tout le monde sur le but final, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà, ça permet d'aligner quelques éléments. Après, il y a un séquençage et que tu dois faire, et aussi par rapport aux priorités. On a fait du RISE pendant longtemps.
Yes.
Donc je peux peut-être le rappeler pour tout le monde, c'est Reach, Impact, Certainty et Effort.
Yes.
Quatre métriques. On a basculé en Love Me, alors qu'il y a un petit peu moins courant.
Ok, vas-y,
c'est les mêmes gros composants. Il y a une dimension legal et compliance qui arrive. Donc le L, c'est vraiment legal compliance. Parce qu'on est quand même dans un produit vachement réglementé. Et donc, en fait, souvent, le RISE, il te manque un peu la partie legal qui peut vite sauter. Et après, user, c'est un peu comme ton reach. Vie, c'est la valeur, c'est un peu comme ton impact. Le M, c'est maturité, c'est un peu comme ta certitude, et tu gardes l'effort. Et là, en fait, on a fait des échelles très, très précises sur, c'est quoi le U, c'est quoi le volume très précis. Et donc, systématiquement, nos initiatives ou nos stratégies, peu importe la granularité que tu veux avoir, un des premiers éléments, c'est de réussir à pouvoir définir l'œuvre. Et c'est un peu le sujet aussi de la discovery, en fait. Discovery, hein, des outputs, c'est d'avoir pu remplir ça.
Et ça, c'est systématique, du coup, l'usage vraiment de cette grille de lecture, tu vois, vraiment très data-driven, justement, pour la priorisation, ou c'est... est-ce qu'il y a aussi toujours, à votre échelle, à la taille que vous êtes, et du coup, parfois, tu vois, du doigt mouillé ou une volonté, tu vois, d'aller dans une direction, on n'arrive pas à y mettre les métriques derrière, parce qu'en fait, il faut qu'on crée l'engagement pour arriver ensuite à avoir les métriques. Est-ce qu'il y a encore ça? Est-ce que vous fonctionnez encore quand même, tu vois, sur cette approche-là? Il y a un mix des deux où c'est très, très data-driven et tout doit pouvoir rentrer, du coup, dans cette grille-là pour pouvoir derrière être justifié?
Ouais, alors c'est une très, très bonne question. Et je pense que c'est un des gros enjeux, justement, des équipes produits et aussi de la communication autour des équipes produits. Genre, parce que souvent, les gens arrivent avec voilà comment on fait. Et puis, souvent, les équipes peuvent se dire, ah bah tu vois, dans telle boîte, ils font comme ça, ça marche. Je pense que le vrai truc qui est indispensable au début, je vais être un peu technique, c'est Ken Beck qui avait matérialisé ce qu'il a appelé les 3X. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu.
Non, vas-y.
Explore, Expand, Extract. Il matérialise le fait que quand tu fais un produit crypto-tech, mais peu importe, souvent tu as trois phases. Tu as une première phase où tu génères rien et ton objectif, c'est d'explorer. Donc tu es dans une phase où tu testes, tu cherches à avoir du market fit, ainsi de suite. Et puis à un moment, tu le trouves. Et donc là, tu passes en phase d'expand, c'est-à-dire, donc, tu vois, ça fait une courbe de bas vers le haut comme ça. Et là, ton principal objectif, c'est d'enlever les différents points de blocage que tu peux avoir partout. Donc, tu vois, ça va péter là, ça va péter là. Comment tu arrives à enlever les frictions, les choses comme ça. Et puis, à la fin, tu as une plus grande maturité et tu es en extract. C'est-à-dire, tu as un produit et ce que tu cherches là, c'est à extraire le plus de valeur, à optimiser ta valeur. En même temps, tu as la courbe opposée qui est celle du risque ou du business. C'est-à-dire que quand tu es en exploration, tu n'as pas de business, donc tu as plus à gagner qu'à perdre. D'accord? Et quand tu es en extract, par contre, tu as plus à perdre qu'à gagner. Et ça, c'est valable pour ton entreprise et ton produit d'entreprise, mais même au sein même de ton produit. Tu as des zones où tu dis, là, c'est de l'extract parce que c'est mon cœur que je fais depuis 10 ans et c'est très mature, et puis j'ouvre des nouveaux trucs et je suis peut-être plus en exploration. Et je pense qu'un point élément, un élément clé sur lequel on commence à s'attacher de plus en plus, c'est que quand tu travailles sur un bout du produit, c'est d'expliciter dans quelle phase tu es. Parce que chaque phase, c'est des pratiques différentes. Quand tu es en explore, tu n'as pas de data, tu as peu de data, tu as beaucoup à gagner. Donc là, c'est la vélocité, le test and learn qui vont être le plus important. Quand tu es sur la partie du produit, grosse maturité, où tu as beaucoup à perdre et tout, tu vas peut-être plus être data-driven, avoir de l'AB testing, et ainsi de suite. Et quelque chose que je n'avais pas matérialisé, et seulement récemment, c'est comment, avec les équipes, de se dire, tiens, dans quel état du produit je suis ici, et d'adapter les méthodes. Parce que souvent, sinon, on arrive sur des débats sans fond, faut faire comme ça, on fait pareil pour tout, mais en fait, ça ne marche pas en exploration. Ah oui, mais on est trop processé, faut qu'on aille vite. Et ça marche pas en extraction. Ah oui, mais là, on va trop vite, on va être data-driven, ainsi de suite.
Hyper, hyper intéressant, je trouvais. Tu l'as très bien expliqué, effectivement. Et du coup, ça me fait aussi une transition pour te poser la question pour revenir, comme je dis, moi, ça m'intéresse de savoir quand vous avez fait le switch site du zéro Open Classroom. Est-ce que déjà, à cette époque, tu considères que vous étiez
Pas du
en
tout.
expand, en explore toujours
Ah ouais.
Moi, je vois entre les deux à ce moment-là, mais je suis curieux de savoir là, toi, et comment ça s'est passé aussi, du coup, un peu les coulisses de
Ouais,
cette
bien sûr.
époque, et à l'époque, comment ça s'est passé
Ouais.
aussi produit, parce que honnêtement, pour ceux qui n'utilisaient pas le site du zéro ou qui ne connaissaient pas trop, ça a été vraiment un gros changement
Ouais.
d'un point de vue utilisateur final,
Ouais.
personne qui, parce qu'il y avait à la fois le branding, mais
Ouais.
aussi toute la plateforme qui avait été complètement
Ouais.
refondue,
Ouais.
d'un point de vue UX aussi. Enfin, c'était vraiment un gros changement, quoi. Et vous l'avez fait de manière assez bold, telle que je m'en souviens.
Ouais. Ok, merci. Alors, c'est une période, alors il faut que je retourne un peu dans mes souvenirs. Alors déjà, les tailles d'équipe, la maturité produit était beaucoup plus faible, même si c'était dans l'ADN. Hein. Mais bon, tu connais mieux que moi, hein, depuis 10 ans, 12 ans, alors je pense qu'on a fait en 2013 ou 2014, la connaissance, enfin, les compétences produits ou la méthodologie et pratiques produits ont énormément évolué. Donc à l'époque, bon, c'était pas aussi défini, ainsi de suite. Il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape qui a été changement de plateforme. Moi, je suis arrivé au moment où on allait la lancer. Et le lesson learned, c'est ne faites jamais de changement de revamp, hein, parce que ça, c'était super compliqué, mais c'est peut-être un autre sujet quand on a fait ça. Et puis le changement de branding, et la question est plus là-dedans. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que Mathieu, il en parle très bien. C'est lui, quand il a écrit, quand il a commencé le site du zéro, il avait 12 ans. Fallait qu'il trouve un nom, il galérait, il a pris le site du zéro, il savait pas qu'il allait faire une boîte et que ça allait avoir un impact. Et en fait, ce qui est assez marrant dans le truc, c'est qu'en fait, il y a une différence entre ce que les utilisateurs perçoivent de ta marque et comment ton entreprise l'aperçoit et les évolutions qu'elle sent. Ce qui se passait, c'est que le site du zéro, site ultra communautaire, tu peux tout apprendre à partir de zéro. Mais finalement, petit à petit, tu te rends compte que l'industrie est en train de bouger. Que finalement, et que toi, ton business model, il doit bouger aussi. Parce qu'en fait, l'écosystème bouge, la société bouge. Et donc, tu te rends compte que petit à petit, tu parles avec des entreprises, tu parles avec des employeurs, des employés, et tu te rends compte que entre le produit que tu es en train de faire évoluer et le nom de ta marque, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on discutait avec des entreprises assez grosses qui voulaient utiliser nos services, ainsi de suite. Puis ils disent, ouais, mais bon, moi, c'est pas des zéros que j'ai dans ma boîte. Ça marche pas, quoi. Tu commences à travailler avec les institutions pour commencer à avoir de la crédibilité, pour avoir des formations reconnues. Ils disent, votre organisme de formation, il s'appelle, il y a zéro dedans. Ça marche pas. Et donc, petit à petit, c'est du business qui commence à augmenter et que les utilisateurs voient pas. Mais dans ton entreprise, tu sens le décalage. Tu sens, ah bah mince, il y a un décalage, plus l'internationalisation qui commençait. Mais il y a ce décalage-là, bah ouais, mais nous, les clients auxquels on parle, c'est pas forcément la majorité des utilisateurs, mais c'est ceux qui génèrent du business, tu as un décalage. Donc, tu travailles sur un branding. On a été accompagné, c'était par BETC à l'époque. Et en fait, ça arrive du jour au lendemain pour l'utilisateur final, mais dans ton entreprise, ça fait déjà 2-3 ans en fait que ça se passe. Donc voilà, alors forcément tu le fais du jour au lendemain, changement de marque, c'est. Et en plus, derrière le changement de marque, tu as l'exposition du changement un peu de stratégie. Et donc tu dois passer aussi beaucoup de temps. Je me souviens qu'à l'époque on avait beaucoup de forums et tout, et je me souviens que Pierre et Mathieu, donc les fondateurs, je pense que c'est le plus gros thread de l'histoire des forums, je pense à un truc à 3000, 4000 messages. Et on s'était pris la tête à répondre à chaque message pour expliquer pourquoi on faisait. On l'avait communiqué sur les forums. Ils avaient pris un temps incroyable. Mais tu le fais. Déjà, tu le dois aux gens.
Et sans la
Et tu le
GenAI à
fais.
l'époque.
Et sans la GenAI à l'époque. Totalement. Et puis, bah, petit à petit, le changement, tu le vois beaucoup après. Parce que finalement, avant, c'est Open Classrooms. Ah, le site du zéro. Puis petit à petit, il y a des gens qui commencent à découvrir la marque par elle-même et qui se souvenaient encore du truc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que tu as fait le pas quand les gens, il y en a qui disent, je connais pas le site du zéro, c'était quoi le site du zéro? C'était il y a 10 ans. Mais il faut du temps hein, quand
Yes.
même, et je pense qu'il a fallu peut-être 10 ans pour que les gens se disent, ah oui, maintenant.
Et le switch de plateforme, du coup, tu dis ça, c'était vraiment vraiment chaud d'un point de vue.
Bah, en fait. Je peux en parler pendant longtemps de ça. En fait,
Techniquement, déjà, il y a eu complètement
ouais,
un.
refonte. Et en fait, ce que je veux dire, c'est la refonte, c'est un tueur de produits, en fait. Parce que le produit, c'est créer de la valeur pour l'utilisateur. À partir du moment où tu dis, je m'engage dans une refonte, à un moment, tu vas arrêter de délivrer de la valeur. Et souvent, tu dis, je pars d'une bonne intention, ça va être super bien et tout.
Ouais, parce que ça, l'angle souvent, il est plus tech aussi. C'est se dire, bah là, mon archi, elle est immaintenable, j'ai une dette technique de ouf, je vais pas pouvoir gérer le scale, ajouter une feature, ça me prend un temps monstre. Demain, si je refonds tout, bah, je vais être beaucoup plus véloce, etc. Donc ça part, comme tu dis, de bonnes intentions, souvent plus driven
Technique, ouais.
par la tech. Et
Ouais.
ce qui peut aussi poser des problèmes, justement, sur le fait de perdre le but principal, qui est d'apporter la valeur à tes utilisateurs
Ouais.
finaux. Qui en soit, que ça soit derrière du no-code, un truc fait à la va-vite, tant que ça tourne et la valeur est là. Donc, mais il y a aussi quand
Mais
même
comment
ces
tu gères
enjeux.
ça?
Voilà.
Mais moi, ce qui est assez marrant, c'est que j'arrive, l'équipe qui était beaucoup plus junior à l'époque, avait entamé une refonte, ça faisait peut-être 2 ans qu'ils étaient dessus. Donc déjà, 2 ans, en parallèle, ils faisaient le site, parce que tu te dis, j'arrête pas tout, et puis tu as le nouveau site, t'imagines en interne, tu as ceux qui travaillent sur le nouveau site, ils sont super contents, les autres qui maintiennent, la legacy, ils sont là, c'est le problème. Et puis tu as un site qui est là depuis longtemps, tu as fixé tous les bugs et tout, le truc il est pleinement fonctionnel. Donc le jour où on a. Et puis en plus on a du volume. Hein. On avait beaucoup plus de volume même à l'époque. Enfin, c'était un gros. Enfin.
Ordre de grandeur, tu peux partager là-dessus à
Je pense
l'époque.
que tu
Nombre
vois,
de
on était
visites
à
mensuelles.
3-4 millions de visiteurs uniques.
Yes.
Un truc. Et puis beaucoup de pages. Donc je pense qu'on devait avoir 25-30 millions de pages vues. Ce que je veux dire par là, c'est. Tu vois, c'est pas le switch, la performance.
Et puis il n'y avait pas, enfin si, vous étiez à l'époque, vous étiez sur des infras vraiment complètement
Non.
managés par vous, j'imagine.
Ouais. Et puis on avait deux serveurs physiques, t'étais
Ouais,
pas
c'est
dans le
ça.
cloud et
Ouais, t'es
tout,
pas
quoi.
sur du
Donc tu
AWS ou du
vois le
Azure.
sujet. Et donc l'anecdote, un peu, c'est facile d'en parler maintenant, mais. Donc à un moment, tu te dis, faut le lancer, parce qu'en fait, sinon tu vas jamais lancer, tu seras jamais prêt. On lance, on communique la date, on lance. Et là, Je me souviens encore, moi je m'occupais de regarder l'état des bases de données. Je me dis, ah, c'est marrant, parce qu'on avait plusieurs bases de données. Je vois, ah, tout va bien pour ma base de données. Tu m'étonnes. En fait, les gens n'arrivaient même pas jusqu'à la base de données. La requête, elle n'arrivait même pas jusqu'à la base de données. Donc tout a pété. Et d'une force incroyable, quoi. Pour dire comment on a dû. On n'arrivait même pas à refaire le cache, donc c'est un. On était bloqué. Donc en fait, la première disposition qu'on a prise, mais c'est aberrant hein, ce que je vais dire, hein, donc c'était il y a longtemps. Hein. En fait, on filtrait une requête sur 1000. C'est-à-dire qu'on coupait, on laissait passer qu'une requête sur 1000
Fallait
pour faire le
venir au
cache.
casino pour venir
Pour
sur.
faire le
Ouais.
cache. Puis après, on a réussi à descendre à une sur 100, puis à une sur 20, puis à une sur 2, enfin, et ainsi de suite. Et ça a été même en plusieurs jours, quoi. Pour faire du cache et que ça tienne. On a coupé des pans entiers du site et ainsi de suite. Et donc après, bah, tu récupères plus ou moins le truc. Je crois qu'on avait mis peut-être un mois pour ouvrir les forums. Enfin, tu vois, catastrophe quoi. Mais c'est pas là la catastrophe. La catastrophe, c'est que naturellement, quelques mois après, bah, les problèmes que tu voulais éviter avec ton nouvelle plateforme, bah, elle arrivait sous un autre mode, quoi. Et donc, tu vois, c'est là où on a eu un grand changement qui a été très décisif d'un point de vue technologique, mais finalement qui a eu un impact produit. On s'est dit, bon, ok, quelle serait l'architecture qui nous permette d'accompagner les changements en fait? Parce que, et on a fait ce qu'on appelle la clean architecture, donc là c'est un peu technique, mais qui est une architecture très très fonctionnelle. Et donc, ça a un lien aussi avec le produit. Et il y avait peu de littérature là-dessus, mais on l'a quand même fait. Et on l'a fait évoluer. Mais tu vois, depuis 12 ans, on n'a plus fait de refonte. Si tu demandes maintenant aux développeurs, ouais, vous voudriez, il y a des problèmes, vous voulez refaire une refonte, ils te font jamais de la vie, quoi. Enfin, on continue plutôt d'itérer. Et ça, cette valeur sur le long terme de se dire, tiens, à un moment, c'est un pari, hein, mais tu as investi un petit peu sur une architecture, tu t'es pris la tête dessus. On n'a fait aucune refonte en 12 ans. On ne peut pas dire qu'on a de la legacy, mais on n'a pas de dette technique, tu vois, on a des vieux trucs, ok, mais on a peu de dette technique, ce qui fait que en continu, tu as pu délivrer de la valeur. Et tu vois, le coût d'une refonte tous les 5 ans, bah, c'est pendant un an, tu délivres pas de valeur. Sur le long terme, c'est un avantage produit décisif en fait.
Hyper, hyper intéressant. Donc déjà merci pour ces coulisses de l'époque parce que donc comme on voit c'était pas hyper simple de l'intérieur en tout cas de l'extérieur du coup comment vous l'avez géré parce que enfin, la pression je pense elle devait être monumentale parce que tu as une porte d'entrée sur ton site d'un coup boum c'est fermé et du coup bah en fait, tu peux c'est comme si tu fermais la porte de ton business quoi limite alors que tu es en pleine phase de scale pleine phase donc ça comment vous l'avez enfin vraiment d'un point de vue peut-être apprentissage là pour des personnes qui seraient dans des situations un peu similaires sur d'autres sujets avec une pression très très forte. Comment ça a été géré, tu vois, en interne? Qu'est-ce que vous en avez tiré, tu vois, aujourd'hui, tu vois, tu dis si demain une situation similaire se produirait, comment je le gérerais d'un point de vue pression
Bah en vrai, structurellement, elle peut plus arriver. Parce que tu vois, tu as cette notion de je me mets une pression folle sur un nombre énorme, un périmètre énorme un jour J. C'est inconcevable pour nous de rester dans ce mode-là. C'est comment tu changes toute ta structure de gestion, aussi bien du produit que technique, pour être en continuous delivery, enfin en livraison continue. Mais y compris dans la valeur. Tu vois, par exemple, si à un moment on se dit, tiens, on doit travailler sur une initiative et que ça va prendre plus d'un mois, en fait, ça génère un warning chez nous, mais direct. Parce que, un, plus c'est large, plus tu as des chances de dévier. Plus tu augmentes tes risques, bah, d'apprentissage, de perte d'apprentissage. La boucle de retour, elle est super importante, utilisateur. Donc, plus tu l'éloignes, bah, plus tu peux aussi dévier en termes de compréhension de ce que tu as fait et de valeur que tu as apporté. Et plus tu augmentes les risques aussi technologiques, c'est-à-dire d'un coup, du jour au lendemain. Si tu livres en continu des petits trucs, s'il y en a un qui se passe mal, tu casses pas le site, quoi. Tu te dis juste, bon, c'est mal passé, je reviens au truc d'avant, je minimise les risques. Donc c'est une démarche qui doit être aussi de. Elle commence, d'ailleurs, si on revient sur la partie produit, elle commence aussi par un mindset produit. De se dire, tiens, même quand c'est un gros pan, travail à te dire, est-ce que tu peux pas apporter de la petite valeur avant? Et tu vois, c'est pas que de l'itération de valeur, parce que tu sais, souvent en produit, on dit, tiens, tu sais, la fameuse, le fameux dessin qui est mal prévu, c'est genre, je fais mon skate, puis mon vélo, puis mon truc. Mais bon, à un moment, tu dois créer une fusée, tu commences pas par un skate, quoi. C'est comment tu arrives à trouver, même si tu as ta vision qui est claire, d'apporter quand même de la valeur et peut-être indirect. Bon, de se dire, mais en tout cas, de livrer quelque chose pour diminuer tes risques. Et donc là, tu essaies de le mettre structurellement, dans la culture, dans tes pratiques.
Aujourd'hui, vos cycles, c'est quoi? C'est une semaine, deux semaines, quand vous shippez des nouvelles, quand vous testez justement de nouvelles choses sur...
Tu parles du cycle de la... quel cycle? Parce que tu vois...
Pardon, ouais, sur une itération, sur un bout du produit, par exemple, produit plateforme, il y a... des améliorations que vous voulez tester sur comment tu vas gérer par exemple ton onboarding sur la phase de booking. Donc tu as une initiative qui te paraît pertinente que vous voulez tester. Il va se passer combien de temps entre le moment où ça a été décidé, ok, on va la tester?
En fait, ça dépend vraiment de la taille, parce que ce qui va prendre le plus de temps finalement, c'est vraiment la partie produit design, ainsi de suite. Je te donne des ordres de grandeur parce que c'est des trucs qu'on mesure très précisément. Une phase de discovery, bon, pareil, ça dépend si tu es en Explore Extract, c'est entre un jour et parfois deux mois.
Oui, on revient aussi à tes 3X.
Après, le design, pareil, on sait qu'on n'a pas un cycle time de design, il ne dépasse pas deux semaines en vrai. Bon, après, tu peux dire je redécoupe, mais tu dis tiens, l'unité que je manipule doit pas dépasser deux semaines. Après, c'est possible que l'initiative soit plus grosse et tu dis au final, on aura passé plus de temps. Mais tu dis, tiens, le livrable possible, il faut qu'on arrive à deux semaines. Ça veut dire deux semaines qui inclut, je fais de l'interview utilisateur, de la recherche, je maquette, je prototype, je fais des tests, et j'en parle. Et puis après, notre cycle time de tâche en développement, c'est 5 jours.
OK.
Donc entre je prends la tâche et c'est en prod, c'est 5 jours. Donc en fait, ça peut évoluer en fonction du périmètre. Mais tu te garantis qu'à un moment, quand une équipe commence à bosser sur un truc, ça ne doit pas dépasser le trimestre. C'est plutôt moins, tu vois. Mais le trimestre, entre le moment où tu commences à aller plus loin dans la compréhension produit, engager tes stakeholders, ainsi de suite, jusqu'à la livraison.
Yes. Okay. Très clair.
Ça peut être plus court, tu vois. Et puis après, tu vois, tu as quand même le truc de je travaille sur un truc, je le livre, ça n'a pas l'impact souhaité. Je veux faire de l'adaptation, des trucs. Voilà, on est sur des cycles beaucoup, beaucoup plus courts, tu vois. Là, c'est quelques jours, quoi.
Très, très clair. Enfin, je trouve ça bien aussi que tu as quand même bien rappelé entre si tu es en phase explore versus extract, parce que clairement, là aussi, les façons de faire ne sont pas les mêmes et la vélocité non plus. Ouais. Pour revenir du coup sur l'aspect product et business, que je sais que dans quelle mesure tu veux partager ça, je suis curieux aussi de savoir, toi. Je sais que tu travailles aussi avec, vous avez, je crois, un ou une chief revenu officer ou un département où le produit travaille aussi avec la partie revenu. Et donc la partie vraiment plus business, ce qui dans certaines organisations, la plus des grandes boîtes, c'est rare par exemple de voir dans des comex de boîtes du 440 des chief product officer. Tu vas avoir des CMO, des responsables marketing, mais tu vas rarement avoir des CPO à la tête de boîte du CAC 40. Et du coup, je suis curieux de comprendre comment vous fonctionnez, ou plutôt les enjeux que ça pose, et comment tu essaies de travailler là-dessus sur l'intersection que vous avez vraiment produit-business qui reste assez forte dans votre cas, en fait.
Ouais. En fait, le challenge qu'on a eu, c'est un gros challenge toujours pour nous, c'est que avant... C'était vraiment assez siloté, enfin, mais naturellement par les métiers. Enfin, c'est pas que Open Classroom, c'est pas une culture de dire on silote, mais souvent c'est des métiers sales, produits. Il y a toujours tu vois, un rapport qui peut être parfois compliqué ou bien, mais tu vois, en tout cas, c'est des mondes qui sont assez différents. Ce qui a changé quand même, c'est à un moment on se rend compte. Donc, on fait ce travail-là de harmonisation des trucs. Donc, d'un coup, c'est plus facile déjà de partager des OKR, y compris des key results. Le deuxième truc qui change, c'est qu'on se rend compte, on approche le produit avec une approche business un peu plus product-led growth. Et en fait, on se rend compte que quand tu dois budgétiser ou tirer tes forecasts, tu te rends compte que l'impact il est de plus en plus aussi joué par le produit. Alors tu dis, ah ouais, mais ici, en fait, si on veut aller sur cet objectif, c'est que du produit. Et des fois, tu as même, c'est que du produit. Donc tu peux pas dire, bah tiens, ton impact booking, je vais le mettre sur l'équipe sales. Ils vont dire, bon, moi, en fait, je peux pas influencer. Et donc à un moment, tu te rends compte que les leviers que tu as étant très produits, sur le chiffre d'affaires ou sur le bookings, en fait, tu peux pas dire, bah tiens, on le donne à quelqu'un d'autre, voilà. Donc à un moment, tu vois, nous, on récupère une grosse responsabilité sur le bookings. Et donc à partir de là, si tu arrives à avoir les qui résultent en même temps et tu as une responsabilité, tu dois adapter d'un coup toutes tes pratiques. Et ça, c'est un gros changement, un gros change pour nous. Parce qu'en fait, finalement, quand tu prends une responsabilité du booking au sein de l'entreprise et au sein de reporting et ton board, ainsi de suite, bah, tu es obligé d'adapter vachement tes pratiques, tes relations et tout. Un premier truc, c'est que ces chiffres-là, tu dois aussi les suivre jour à jour, semaine par semaine. Et là où le produit a un cycle de vie qui est toujours un petit peu plus long. Et donc, souvent, on se dit, oui, on en a conscience et tout. Mais quand tu dois te justifier le truc, en fait, c'est pas genre. Tu peux pas le prendre à la légère. C'est un moment, bah, tu dois regarder tous les jours tes chiffres. Tu dois travailler toutes les semaines à se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, et comment on peut avoir un impact très court terme dans la semaine qui vient. Et ce très court terme, il n'est pas que produit, tu vois, il est aussi avec tes autres équipes. Donc en fait, là, le truc sur lequel tu dois bosser, c'est bah, gérer ces deux temporalités, c'est bah, collaborer d'autant plus avec toutes les équipes dans l'entreprise, parce qu'en plus, tu n'as pas tous les éléments, et donc tu es obligé de comprendre ce qui se passe en marketing, ce qu'on entend en sales. Et donc là, en fait, on arrive à arriver avec comment dire, un matériel commun, je veux dire. Donc ça peut être du reporting, ça peut être des présentations. Et ça reste un challenge, mais on a pas mal cranté là-dessus. Et donc ça veut dire aussi comment tu arrives à faire comprendre aussi aux contributeurs individuels que c'est important, que ça vient à leur objectif. Et ça prend un peu de temps. Mais paradoxalement, maintenant qu'on a cette responsabilité-là aussi, je me demande comment on faisait avant.
Intéressant, ouais.
Je me dis, en fait, il y a plein de décisions, on ne prenait pas les bonnes décisions. Et ça c'est un changement. Parce qu'en fait, tu es un peu en zone de confort. Tu es un peu en zone de confort où tu dis, ah ouais, mais regardez, j'ai amélioré l'engagement, j'ai amélioré l'usage. Ouais, c'est cool, tu t'es défini des métriques et c'est bien. Mais tu ne te prends pas la pression parce que tu vois aussi une grosse différence de pression. Hein. Quand à un moment, bah, tu as une responsabilité autour du bookings, bah, si tu ne le fais pas, c'est autre chose que de dire, bon, ouais, super, on a augmenté telle traction métrique. Et donc, tu es beaucoup plus décisif dans tes choix. Tu prends des choix qui sont beaucoup plus larges, quoi, qui couvrent tout. Et maintenant, je commence à me dire, là, je me dis, on a gagné. Alors, on n'y est pas hein, sur plein de choses. Hein, qu'on se rend, hein. Mais récemment, je me suis dit, mais comment en fait, avant, on faisait? Il y avait tout un spectre, j'ai l'impression qu'on couvrait pas, qu'on comprenait pas.
Et pour ce travail-là, du coup, est-ce que tu t'es inspiré d'autres boîtes? Est-ce que comment tu as fait du coup, ce travail de, enfin, comment toi tu t'es inspiré pour réussir à mettre en place
Ouais.
ce nouveau mode de fonctionnement?
Eh ben, je galère, je vais pas te mentir. Je galère, on en avait parlé, hein, c'était un de mes enjeux. Déjà, le premier truc, c'est essayer de parler à la communauté des CPO ou des autres entreprises dans lesquelles ça se passe. Et même s'ils ne font pas exactement comme toi, ça donne beaucoup d'insight. Donc, le premier truc, c'est bah, déjà faire preuve d'humilité de trucs. On ne sait pas trop, donc il faut aller récupérer l'information, discuter avec des gens, regarder, lire, ainsi de suite. Et après, là où c'est un peu compliqué, c'est que finalement, c'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas finalement, de se dire, tiens, une équipe produit a une certaine responsabilité. Tu l'as, tu vois, il y a la notion de contribution, enfin, tu vois, que je ne sois pas mal compris, c'est tout le monde l'a en tête. Tout le monde contribue et il n'y a aucune équipe produit qui pourrait dire, je
Oui,
suis pas business
qui soit détaché
oriented, et
complètement du
ainsi de suite.
business, ouais. Mais entre aider le business et avoir une responsabilité directe sur les chiffres, c'est pas comme tu
c'est
disais,
très
c'est pas
différent.
La même chose. Ouais.
Et ça, bah, je commence à regarder un peu plus aussi à l'international. Je pense que c'est quelque chose qui existe peut-être plus dans certaines autres boîtes et tout. Et c'est là où je le perçois. En France, ça évolue, ça ne l'est pas encore. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je ne peux pas te donner la réponse. Hein. Je ne peux,
Yes.
je peux pas te dire. Je pense que ça dépend du produit, du business, du périmètre, de la maturité. Je ne peux pas te dire que c'est bien. Mais on continue d'apprendre énormément là-dessus.
Très, très clair. Merci pour ce partage. Et si des auditeurs aussi ont des insights à partager avec toi,
Très,
qu'ils n'hésitent pas
très curieux.
à te
Très,
contacter.
très, très curieux.
Je suis curieux, du coup, avant d'aller vers mes questions de fin d'échange. Ça fait plus de 10 ans, du coup, que tu es chez Open Classrooms.
Ouais, 12 ans.
12 ans. Là, du coup, on enregistre dans vos studios. Donc, votre staff aussi, ça fait. Je discutais juste avant avec un des membres qui est là depuis plus de 10 ans aussi.
Ouais.
Donc, enfin, longévité qui est quand même. Qui a le mérite d'être noté, parce que dans la tech, c'est pas quelque chose
Ouais.
qui est si fréquent de rester aussi longtemps en
Ouais.
fait dans la même boîte, surtout quand on passe par des montagnes russes
Ouais.
comme vous avez pu y passer. Je suis curieux un peu de savoir c'est quoi votre secret sauce, tu vois, c'est quoi pour toi qui fait que la culture d'Open Classroom permet de retenir les talents aussi
Ouais.
longtemps, aussi motivés, toujours avec le smile après autant d'années.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, on est une entreprise à mission. Et finalement, tu vois, tu as beaucoup de gens qui nous rejoignent parce qu'au quotidien, tu sais que tu as un impact positif sur la société. Tu vois, nous, on aide des gens qui sont éloignés de l'emploi à trouver un emploi. On a beaucoup de témoignages, ainsi de suite. Tu te lèves le matin, tu vois, tu vends pas de l'advertisement ou tu vois des produits financiers un peu bizarres, quoi. Et y a beaucoup de gens qui nous rejoignent aussi parce qu'à un moment, ils ont peut-être une expérience, ils se sont fait leur expérience dans des super boîtes et tout. À un moment, ils cherchent peut-être un sens un peu plus concret dans le monde professionnel. Donc ça, c'est déjà un premier élément super fort. En plus, on est dans l'éducation. Donc en fait, on a un biais positif, mais qui pose des problèmes ailleurs, qui est les gens qui nous rejoignent ont un sens de la curiosité. Donc tu as une entreprise apprenante qui fait parce que le domaine qu'on est, l'éducation fait que les gens qui nous rejoignent aiment bien le partage, sont curieux et tout. Donc ça donne une entreprise apprenante. Ça a d'autres problèmes, hein, je viendrai plus tard si tu veux, mais donc tu as une entreprise apprenante qui évolue et dans lequel tu es dans un environnement stimulé pour apprendre. Et l'entreprise, tu vois, elle n'a pas besoin de mettre des choses en œuvre pour que les gens se disent, ah tiens, moi je fais de la veille, je fais du truc. Donc autour de toi, ça gravite des gens qui sont toujours en veille, en apprentissage. L'écosystème, il a aussi vachement évolué. Comme je te disais, on vendait de la pub et maintenant on fait des formations. Donc en fait, ton métier change aussi, ton domaine change aussi. En même temps, tu rajoutes la scale-up, les évolutions, bah, c'est différent quand tu es 15, quand tu es 300, et puis à un moment on a été 600, et puis on est redescendu. Donc en fait, en plus, ton environnement d'entreprise évolue. Donc déjà, la notion de lassitude, elle est somme toute assez relative. Parce que finalement, tu as l'impression de bouger tout le temps. Et puis après, ouais, je pense que tu as des mécaniques aussi qui sont bah, à travers ça. La capacité que tu donnes aux gens à évoluer, à apprendre, à être dans un environnement de travail dans lequel ils sont intéressés, valorisés, c'est ce genre d'élément qui fait que tu as des jeunes qui restent plus longtemps.
Très, très clair, top. En tout cas, enfin, moi je trouve ça vraiment top ce que vous faites
Mais c'est
depuis
gentil.
l'époque du Sud Zéro. Je suis super content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Du coup, avant d'aller vers mes questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier qu'on n'a pas abordé, un sujet que tu voudrais, sur lequel tu voudrais toucher du doigt, à ajouter?
Ouais, on n'en aura pas trop parlé, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais tu sais, on avait évoqué en amont le fait que d'avoir toutes ces équipes-là, tu sais, ce grand périmètre entre le produit, le design, la data, la tech, ainsi de suite, et comment on travaillait à essayer de voir comment les pratiques d'une équipe pouvaient influencer les pratiques de l'autre. Après notre podcast, là, j'ai un point avec l'équipe Back-end Engineering et ils me présentent leur priorisation d'ingénierie en utilisant le Love Me. Et tu vois, c'est un très bon exemple de dire, ah tiens, une pratique produit-là de priorisation, comment elle a infusé dans une équipe ingénierie où tu dis, comment tu priorises tes sujets tech? Et ils ont fait un Love Me. Et sauf que l'utilisateur ou l'impact, il est basé plus sur eux, sur l'impact en termes de. C'est assez intéressant. Et c'est un sujet qu'on abordera peut-être un jour, mais en tout cas, c'est...
Yes, donc c'est logique de, ouais, de pollinisation
Ouais,
entre...
je trouve ça fascinant, je trouve que c'est vraiment... Moi, c'est un de mes moteurs au quotidien, comment tu te dis, eh, mais tiens, tu sais que eux, ils ont cette pratique-là, elle peut résoudre ton problème. Tu vois, un des trucs, c'est comment la data engineering a influencé énormément notre user research. Tu dis au début, c'est peut-être loin.
Et ça, tu as mis des choses, tu vois, en place. Quelles sont un peu tes grandes méthodes, enfin, tes grands principes que tu essaies d'appliquer pour réussir justement à créer ces dynamiques et
Ouais.
éviter les silos, quoi, parce que c'est aussi...
Je pense que tu as aussi une équipe de leadership dans mon équipe qui est très
Yes.
soudée, qui travaille beaucoup ensemble. Et c'est pareil pour les managers, c'est des choses concrètes. Le fait aussi que dans les squads, t'as pas de conflit d'intérêts parce qu'en fait, tu te dis pas, j'ai les ingénieurs qui ont tel objectif et tout. Bon, en fait, eux, ils le partagent et tu as les mêmes objectifs, c'est sans doute d'autant plus facile. De structurer un petit peu aussi les grands cadres, le grand cadre de travail des équipes sous le même format. Qui fait que les gens vont se poser les mêmes types de questions et se dire, ah bah tiens, la qualité, automatiser la qualité par exemple, c'est un des grands axes. Bah, le design, il va dire, ah bah, mais moi, l'automatisation de la qualité, ils vont aller voir les autres, mais vous, comment vous automatisez? Comment ça peut, comment je pourrais imaginer automatiser la qualité? Donc, objectif commun, cadre de travail commun, capacité à mettre en œuvre des mécaniques de collaboration. C'est le truc standard, on ne l'a pas inventé. Hein. Mais de se ressentir là-dessus.
Et ça marche, quoi. Vous arrivez à le faire que ça marche, quoi. Il y a
Ça
aussi...
marche, des fois ça marche pas, et puis c'est bien aussi. Hein,
Yes.
des fois tu te dis, ouais, non, en fait,
Top.
ça marche pas du tout.
Très clair, du coup, pour aller vers mes deux questions de fin. Donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle tu es en général en désaccord avec tes pairs? C'est pas obligé que ça soit quelque chose sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord avec toi, mais en tout cas où tu as un avis tranché. Moi, j'aime bien avoir des postures...
Ouais. Après, avec les pairs, c'est compliqué dans le sens, tu vois, je trouve qu'il y a une des grosses évolutions, notamment sur, parce que là, on va être plus sur la partie produit, c'est qu'il y a énormément de communication, de partage, et les bonnes pratiques commencent à se développer. Et puis, c'est assez rare de se dire, oh, quelqu'un qui voudrait faire encore du cycle en V dans un cycle produit, c'était peut-être un sujet il y a 5 ans, ça allait de moins en moins. Les bonnes pratiques commencent à se standardiser. Si plus globalement, alors c'est pas forcément les pairs, mais c'est l'écosystème. Il y a un terme que j'aime pas trop, c'est le tech enabling, tu vois, de se dire tiens, la technologie ou le produit technologique est au support du business. C'est de mal comprendre l'écosystème dans lequel on vit et la valeur du produit. Le produit et la tech est générateur de valeur aussi et génère. Tu vois, du business, c'est de retourner le site qui est ah, je dois faire plus de business, donc pour faire plus de business, il faudrait faire ça, 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 et de revenir vraiment sur le site. Si j'apporte de la valeur à l'utilisateur, c'est ça qui me générera du business. Il sera prêt à la payer, et voilà. Donc, c'est pas incroyable ce que je viens de dire, peut-être,
Non, non, mais c'est intéressant
mais
ce que...
c'est le truc produit au support du business, tech enabler et tout. Non, c'est comment à un moment tu te dis non, non, en fait. Ton produit, il est là pour générer du business aussi, en fait.
Yes, c'est intéressant parce que c'est vraiment ouais, l'étape vers laquelle on veut tendre quand on fait quand une part de notre produit est digitale, en fait, c'est effectivement que lui, enfin que ce produit en tant que tel soit pas juste, enfin c'est ce que tu viens de dire, mais comme étant catalyseur de business, mais comme étant lui-même partie,
Ouais.
faisant partie entière en fait du business.
Et là, c'est compliqué parce qu'il y a un vrai travail d'éducation et de culture.
Ouais,
C'est-à-dire
c'est
que
ça.
tu regardes les écoles ou les MBA, tu vois, ils t'enseignent que business driven, et puis en
Yes.
fait, la tech ou les ingénieurs, c'est
Fonction
des gens, une
support ou
fonction de
voilà.
support, et que tu peux l'externaliser facilement, et qu'en
C'est
fait,
ça.
voilà. Donc, il y aura un gros travail culturel qui commencera aussi par la formation, l'éducation. Et c'est là où je suis pas encore super optimiste parce que. Alors c'est pas comme ça qu'on l'enseigne chez Open Classrooms,
Ouais.
mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'écoles, et pas forcément des écoles produits, au contraire, tu vois, ils sont passés à autre chose, mais des grandes écoles d'administration, ou peu importe, ou de commerce, je pense qu'elles ont pas encore. Disaient, oui, la tech c'est important, l'AI c'est le futur, hein. Mais en fait, le futur c'est plutôt de se dire comment. c'est générateur de business et pas fonction support, quoi.
Hyper, hyper intéressant. Et donc, pour aller vers ma dernière question, c'est quelles sont les choses qui te nourrissent intellectuellement? Comment tu progresses? Et ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot. Enfin, c'est...
Ouais, finalement, bah, tu vois, en fait, ça revient un petit peu sur cette mécanique de cross-pollinisation, mais en fait, tu peux l'avoir encore plus large qu'autour de la tech. C'est que comment, en fait, regarder ce qui se passe carrément dans d'autres industries ou dans même d'autres domaines, comment ça peut influencer. Tu vois, par exemple, l'architecture. J'aime beaucoup l'architecture. L'architecture. Et notamment le travail de Christopher Alexander, je ne sais pas si tu connais, dans les années 60-70, a été le plus gros élément d'influence de l'ingénierie software. On ne sait pas. C'est intéressant, tu te dis pourquoi. Mais tu vois, il avait créé, c'était pas le premier, hein, mais vraiment cette notion de design language ou de pattern language, de dire, bah tiens, pour faire une maison, tu peux avoir des patterns que tu répliques, et puis tu as la maison, et puis tu as la ville. Il avait modélisé tous les patterns de comment faire une chambre à coucher jusqu'à une ville entière. Et c'est ce qui a influencé le livre qui s'appelle Design Pattern en développement, qui est un des livres fondateurs, des design systems, et
Yes.
ainsi de suite. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, tiens, comment d'autres domaines. Peuvent avoir une influence. C'est ça que j'aime bien. Comment j'arrive à me dire, tiens, est-ce que cet angle de vue, comment ça me nourrit moi et comment ça nourrit aussi les équipes.
Il y a la curiosité aussi du coup qui revient, l'approche très yes.
Forcément, forcément,
Et ça qui, je
forcément.
pense, ouais, mais c'est aussi ce qui fait la force, je pense, des fonctions, enfin, produits, tout ce qui touche autour de ça, ouvrir ses chakras, en fait, c'est ça aussi qui te permet.
Mais tu vois, pour faire le lien avec le produit, de toute façon, un product manager, il peut avoir des pratiques, mais à un moment, quand il change d'entreprise ou quand il change même de squad ou peu importe, il se doit de se dire, ah, à un moment, c'est comme s'il changeait totalement de métier, quoi. Qui connaît mieux, tu vois, je ne sais pas, le processus d'admission dans une école que le PM admission, tu vois. À un moment, je travaillais pour la DGAC, Aviation Civile.
Yes.
Fallait que je mette en œuvre les règles. Comment ça s'appelle, des licences d'avion. Je les connaissais par cœur. Et tu te dis pas, bien même que les instructeurs, hein, que tiens,
Ouais.
c'était telle règle et tout. Et donc la curiosité, c'est, je pense, une compétence clé dans le produit, en fait, finalement.
Top. Bah merci encore pour tout ton
Merci,
partage, Romain, et pour
merci
ton
Théo.
temps.
Merci beaucoup.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.